Et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou sûrement sur notre site internet campuslille.com. Aujourd'hui, pour parler jusqu'à 19h d'actualité geek et ludique en compagnie de moi-même et de Dominique.
Salut à tous.
Alors, comme d'habitude, nous allons parcourir l'agenda de la musique qui risque d'être un peu surprenante aujourd'hui. Oh. Toujours dans l'esprit de Noël, c'est bien ça?
On essaye, on fait ce qu'on peut.
Alors, on peut ouvrir tout de suite l'agenda. On va partir ici un peu pour parler d'architecture et de patrimoine.
Ah bon?
Non, je vois que c'est conçu par la Cité de l'architecture et du patrimoine à Cambrai.
Ah, c'est ce qu'on a... Oui, on rappelle l'exposition qui est en cours, c'est ça, l'exposition Lego. Ah, j'ai eu peur. On l'avait annoncé la semaine dernière et c'est jusqu'au 16 de janvier, si je ne dis pas de bêtises. C'est à Cambrai, c'est une exposition qui remonte un peu l'histoire des jeux de construction. On parle de briques, on parle de trucs. On va essayer de ne pas citer les noms, ça ne va pas être facile. Hein. On parle de petits personnages en plastique, on parle de pièces en métal qui permettent de construire des maisons, des ponts, des véhicules, etc.
On n'a plus le droit à citer les noms, c'est ça?
J'essaye, je fais ce que je peux. Ça fait plutôt un petit peu trop publicité. L'exposition, c'est ça, c'est jusqu'au 16 janvier 2012 au Labo. C'est le Labo, c'est un lieu de culture et d'exposition à Cambrai. Toutes les informations, c'est sur lelabo.fr, tout bêtement.
Alors, bah, du coup, est-ce qu'on peut parler de la saison 2 de Lego Masters qui va revenir bientôt à la
télé? Oui, bien sûr, ça recommence. On n'a pas le choix, là. C'est dans le nom, c'est difficile. Lego Masters, oui. Alors, j'avoue que je n'ai pas regardé la première saison. Pourtant, j'aime bien les Lego, mais j'ai regardé des résumés. Alors, c'est une espèce d'émission de télé-réalité autour des Lego où il y a des pairs, enfin, des couples de constructeurs de briques qui viennent dans l'émission. Puis, alors, ils ont des épreuves un peu comme dans Top Chef et compagnie, sauf que ça y est, des Lego, des épreuves. Il faut construire soit une ville, soit un décor spécial, une fête foraine, etc. Et à chaque fois, à chaque étape, il y a une équipe qui est éliminée. Et à la fin, il y a trois finalistes. Et donc, c'est sur un thème final. Et c'est le meilleur qui rencontre. Il remporte 20 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, la nouvelle saison commence ce mercredi. Donc, c'est mercredi 28 et jeudi 29. Alors, comme je sais qu'il y a 4 émissions, donc j'imagine qu'il y en aura 2 cette semaine et 2 la semaine prochaine. Et cette année, c'est ça, c'est la deuxième saison. Il y a un couple, il y a des ch'tis. Une ch'tim, comme il s'appelle entre nous. Et c'est important parce que ces ch'tis font partie de l'association Ch'ti-Lug, qu'on va bientôt recevoir, début janvier normalement, pour parler d'une future manifestation.
Donc c'est Hervé Verbrugge qui va
combiner Lego, comme on l'appelle dans l'intime.
Avec Laure, qui nous vient de Sequedin.
Que j'ai rencontré la dernière exposition où j'étais allé à la dernière.
C'est toujours impressionnant à voir comme compétition. Et on espère...
Même si ça fait... Bon, ça reste un petit peu de télé-réalité, il y a le montage qui n'est pas super plaisant, mais bon, c'est assez impressionnant, j'avoue.
Oh, c'est les nouvelles normes de la télévision, bien sûr, mais ça permet de faire connaître un peu le milieu et de voir d'autres choses que la construction simple de boîtes et de suivre le livret.
On découvre
de
que les gens qui passent dans cette émission, qui gagnent ou pas, c'est des vraies vedettes dans le monde, dans l'univers de la brique de construction. Alors que tu peux les croiser dans la rue, c'est des gens tout à fait normaux, et de tous les âges. C'est bon, il n'y a pas d'enfants. C'est une émission qui est plutôt orientée, qui s'adresse plutôt aux enfants, mais dans les candidats, il n'y a vraiment pas, je ne sais pas, les plus jeunes sont étudiants, quoi, mais c'est assez étonnant.
Alors,
donc c'est sur M6 à partir de mercredi et jeudi 28 et 29.
On va en profiter pour passer un peu de musique. Alors Dominique, toujours dans l'esprit de Noël. C'est bien ça. Alors, je vois que tu as ramené des petites musiques qui m'ont l'air très, très sympathiques. Alors, est-ce que tu veux commencer par parler peut-être d'un hommage?
Oui, c'est ça. Bah, comme la semaine dernière, on continue à dépiler parce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens célèbres qui sont morts récemment, en novembre ou en décembre. Et donc, on essaie de rendre hommage, d'une certaine façon, en essayant, si possible, de trouver des chansons de Noël.
Alors, ici, c'est Il Divo.
Il Divo, c'est un groupe, ils ne sont pas morts. Hein. C'est un groupe de chanteurs, ils sont 4. Il y a Alors c'est un nom italien, mais il n'y a pas d'italien dedans. Il y a un espagnol, un suisse, un français et je ne sais plus quel est le dernier, mais c'est pas très grave. Je crois qu'il est américain.
Tu vas nous raconter une blague là.
Non, pas du tout. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Et donc c'est le chanteur mexicain espagnol qui est mort, Carlos Marín, qui est mort le 18 décembre à l'âge de 53 ans, bah, des suites du Covid. Hein, effectivement, El Divo, c'est les chanteurs à voix, comme on appelle ça. Je crois que c'est des vocalistes. J'avoue que j'ai pas vraiment écouté. Et je me suis aperçu qu'ils avaient sorti un album entier de chansons de Noël. Donc je t'ai ramené tout l'album. Éclate-toi, fais-toi plaisir.
J'ai pris Panis Angelicus. Est-ce qu'on n'en a pas déjà assez mangé des chansons de Noël pour en remettre?
Ouais, on sera tranquille quelques mois après, ça va. Tu veux qu'on en passe en plein été? On peut le faire, hein. Ça pourrait être intéressant, faire une émission spéciale Noël en plein été.
Challenge accepted.
Pas de problème.
Ça fait un peu, parce que je vois les photos de l'album, ça fait un peu le boys band un peu chic et classe qu'on pourrait voir en soirée cocktail.
Exactement, boys band un petit peu différent. Oui, bah, ces groupes qui ont été composés à partir d'éléments hétéroclites. Sauf que contrairement au boys band, ils chantent bien à la base, je crois, on peut dire ça.
Ça, là. Des ténors de la musique. Pas de reprise telle que Last Christmas ici ou All I Want for Christmas Is You, c'est plus des reprises traditionnelles. Hein.
Oui, ils ont fait de nombreux albums et de nombreuses tournées, donc peut-être que dans le lot. Hein. Là, ça tirait de l'album La chanson de Noël de 2005. Et, oui, je crois qu'ils ont été créés en 2001, si je ne dis pas de bêtises.
On peut en tenter une autre. Hein.
Ah, c'est parti.
Which one the day that I rejoice, c'est le nom de la chanson. What this was all about. And I came so close to throwing it all away, but I'm taking it back again. So come and rejoice. Come and la question, quand est-ce qu'on écoute ça? À Noël, près de la cheminée.
Voilà, tu l'offres à mamie et tu lui mets un casque.
Pour qu'elle s'endorme voilà. Lorsque c'est l'heure de la sieste. À pomper sur les pentatoniques ou peut-être vice versa.
Non, mais ça c'est les chanteurs comme ça fait des dizaines d'années que ça existe. Donc, les nouveaux chanteurs.
J'ai
de reconnaître le petit shitty flute qui était derrière. Mais...
Alors, je pense qu'on écoute tous les deux une autre émission belge où ils avaient passé donc, les meilleurs extraits des versions de Last Christmas.
Les meilleurs à toi, c'était gentil.
Dans une version à la cornemuse.
C'est magnifique.
Alors, peut-être qu'en fin d'émission, on fera ce cadeau. C'est plus un cadeau de Noël, hein. C'est un peu le cadeau que tu trouves sur le bon coin.
Voilà, c'est ça.
Après Noël. Alors, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec un événement? Et on a bien cru qu'il allait devenir obsolète et annulé pour sa version de 2022. C'est le CES.
Le Consumer Electronic Show, comme tous ces grands salons où de nombreuses entreprises viennent promouvoir leurs nouveaux produits, leurs innovations. Le truc, c'est qu'avec la crise, c'est pas évident que ça se déroule en vrai, en présentiel, c'est comme ça qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui annulent, ils veulent pas faire de déplacement, ou ils s'aperçoivent qu'en fait ils dépensaient des tonnes d'argent pour avoir des stands immenses et des jeunes femmes légèrement habillées pour présenter leurs produits, etc. Ça coûte une fortune. Il y a des gens qui viennent, mais c'est pas forcément des acheteurs. Et maintenant, les gens ont pris l'habitude de visiter des événements comme ça en live, en direct sur Twitch, en restant chez eux tranquillement avec leur bière. Ils peuvent assister. Alors, ils n'ont pas les jeunes filles à moitié habillées, mais et donc pourquoi s'embêter à dépenser des tonnes d'argent quand tu es une entreprise à promouvoir tes produits, alors que tu peux le faire toi-même avec tes propres équipes, avec quelques webcams en investissant un petit peu et en faisant des régies de montage ou je ne sais quoi. Ouais, effectivement, donc, mais les gros salons persistent quand même à se dérouler.
Alors ici, on a eu des grosses annulations. Hein. Je pense que Google, Amazon, T-Mobile...
Oui, ça va, des petits noms, quoi.
Voilà, ont annulé, mais ça n'empêche pas que 2200 entreprises ont maintenu leur participation. Alors, premièrement, parce qu'ici, on est sur un événement qui risque d'être hybride. On en avait parlé des événements qui sont à moitié en ligne et à moitié en présentiel. Mmh. Où les gens, justement, en ligne, peuvent suivre alors, soit des conférences qui se passent sur place, soit voir des stands grâce à la réalité virtuelle. C'est un peu le métaverse ici qui...
Ah voilà, le nom est lâché.
Alors, en parlant de métaverse, j'ai vu une petite news, je pense que tu avais ramené Dominique, puisque des personnes avaient choisi ce nom de métaverse, un peu comme page.
Oui, parce que
à l'époque,
on sait bien que trouver un nom de société maintenant c'est difficile, c'est souvent déjà pris par un pseudo, etc. C'est pas forcément par quelqu'un de connu, mais ce qui s'est passé là, si je ne dis pas, c'est que quelqu'un avait pris comme pseudo Metaverse sur les réseaux sociaux et donc on avait fait son activité. Voilà,
c'est ça, sur Instagram. Donc depuis plus de 10 ans, donc l'artiste s'appelait Thea Mai Bowman, donc une utilisatrice lambda, mais qui partager un peu ses travaux sur Instagram, à chaque fois avec le @metaverse. Et forcément, lorsque Facebook, du jour au lendemain, a décidé donc de mettre en place le Meta, a désactivé son compte pour la raison qu'elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre.
Ils n'ont même pas demandé, même pas proposé un petit peu d'argent en échange ou de changer son pseudo ou je ne sais quoi. C'est limite.
Donc, oui, ils auraient pu lui prévenir, écoutez, voilà, suite à un nouveau produit que nous allons proposer, nous vous proposons de changer de nom puisque nous allons forcément désactiver votre compte à l'avenir. Et non, pas du tout, pas d'appel juste avant, juste du jour au lendemain, elle perd un peu toutes ses publications puisque le compte est désactivé, donc ça...
En fait, ils avaient supprimé le compte et voilà. Bon, ils lui ont rendu, apparemment, il était réactivé, mais parce que c'est pas du tout la même activité. Il peut y avoir plusieurs personnes avec, alors le même pseudo, c'est un petit peu compliqué, mais le même nom, de plusieurs entreprises qui ont le même nom, si c'est des activités qui sont pas concurrentes, c'est pas forcément gênant. Surtout si c'est dans des pays différents. Mais là, le problème, c'est que le mal était fait, quoi. Donc, elle a perdu énormément de ses travaux qui étaient en ligne, quoi.
Alors, quelle idée de tout mettre sur Instagram, c'est peut-être du...
Faites des sauvegardes, les gens, faites des sauvegardes. Mais bon, le mal était fait, quoi.
Alors, d'autres petites actualités, Dominique ?
On n'a pas oublié que le CES 2022 donc, se déroulera du 6 au 12 janvier 2022, donc du 5 au 8, pardon. C'est à Las Vegas, si vous voulez ou pouvez y aller, parce que ça, c'est pas non plus compliqué. Donc, on attend de voir des tas de nouveautés dans le matière, dans le monde, dans le niveau des high-tech, pas seulement des portables, etc. Quelles nouvelles technologies ? Du Wi-Fi 9, du je ne sais pas quoi. Des cartes 3D qui explosent.
Du Web 3.0.
Oh, au moins.
Non, parce qu'actuellement, on est au 2.0 et on commence à insuffler comme ça des idées qu'on pourrait passer au 3.0.
Le MetaWeb.
Voilà. Mais c'est
surtout.
Je vais
voir si c'est déposé comme nom.
C'est surtout pour enlever ce monopole des grosses industries telles que Google, telles que Amazon. Donc, à suivre de très près, forcément,
bon
ça
courage.
Ne plaira pas à tout le monde, vu qu'il y en a qui contrôlent un peu tout. Alors, Dominique, j'ai vu un projet Ulule que tu nous proposes, qui a l'air extrêmement intéressant et qui reprend un artiste qui nous a quitté, un artiste français, l'artiste français de la chanson française.
Ils nous manquent tous.
C'est Johnny.
Qui continue à faire de l'argent, même s'il est mort depuis longtemps. Enfin, un peu plus d'un an, je crois. Ça fait, ouais, c'est ça. Et oui, parce que on peut parler d'artiste à ce niveau-là. Je ne sais pas d'où est venue l'idée. Sûrement après une soirée bourrée, comme souvent les projets. Puisque Johnny a des fans depuis très très longtemps. Et ses fans aiment bien représenter... Quand tu aimes bien quelqu'un, un artiste, et que tu as Tu penses avoir un peu de talent en dessin ou en peinture, tu représentes cette idole, c'est normal. Donc il y a beaucoup de gens qui ont un certain talent graphique, on va dire, artistique, et qui s'amusent à représenter leur idole, Johnny.
Voilà.
Voilà. C'est difficile. Chaque fois, je vois sur mon écran l'illustration qui est mise. Comment dire ? Ils ont un talent certain, je ne sais pas, un certain talent, à un certain niveau. Et le projet, d'ailleurs, il l'a bien compris, puisqu'il y a une espèce de second degré. Le projet s'appelle Johnny, à peu près.
Voilà, donc 4 ans de recherche, une centaine d'œuvres analysées, donc de l'art des fans en l'occurrence ici, réunies. Alors dans ce qui sera un bouquin,
un magnifique artbook.
Un artbook.
Ah oui, un artbook magnifique.
Et on est vraiment dans l'à peu près, pour le coup, de certaines réalisations qui.
Il n'y a pas d'autre mot que à peu près.
Voilà.
Imaginez que votre enfant de 3-4 ans, vous lui donnez des crayons de feutre qui ne marchent pas en plus, hein, on en connaît. Et vous lui donnez une feuille de papier un peu froissée et vous dites « Allez, dessine-moi Johnny ». Voilà, et on va en faire un livre.
Mais on sent que ça a été fait
avec amour. Ah oui, ça on ne peut pas dénier qu'il y a de la passion, de l'amour. Ça vomit de ce projet, la passion et l'amour. Et voilà, oh mon Dieu, plus j'en vois, plus je suis fasciné. J'ai envie de dessiner, de voir Mr. T ou je ne sais pas. Quand, là, encore le même avec à peu près Mr. T.
Bien sûr, sur notre site, donc anotherpodcast.fr.
On va lancer le projet.
On partagera certaines photos.
Et attention, il n'y a pas que des images, que ces magnifiques images, ces magnifiques reproductions. Il y a aussi des textes qui ont été écrits par des spécialistes, dont je vois alors Marc Desfimo, qui est professeur d'histoire de l'art contemporain. Je pense que c'est de l'art contemporain, là, il n'y a pas de problème. Pierre Billon, qui est un ami, lui, il est connu, c'est un ami qui est parolier de Judy. Et surtout, Johnny Rock, sosie officiel de Johnny Hallyday. Moi, j'ai hâte de voir les textes de Johnny Rock sur ces magnifiques œuvres réalisées par des fans. Ah, donc, le projet, en ce moment, est sur Ulule, donc ça s'appelle Johnny, à peu près, interprétation graphique d'une idole. Le mot interprétation, c'est très graphique, c'est très interprété, on peut pas dire. Donc, il y avait un objectif de 8 000 euros, j'allais dire de 1 euro sur ce projet Ulule. On en est à plus de 10 000. Il reste 14 jours, enfin à l'heure où l'émission passe. Ça se termine le 9 janvier au soir. Donc, foncez sur Ulule, Johnny à peu près, si vous êtes fan de Johnny ou pas.
Oui, c'est surtout ou pas. Moi je suis particulièrement pas forcément intéressé par Johnny. Je trouve la qualité ici, envie de dire, du point de vue ironique, c'est extrêmement intéressant.
Absolument. Et il y a des paliers. Donc, je vois que le premier palier, pour 15 euros, tu as un ensemble de 10 cartes postales. C'est-à-dire que tu te fais le plaisir et tu peux faire plaisir à tes amis en leur envoyant des cartes postales de Johnny à peu près.
Voilà, surtout pour les fans de Johnny que tu n'aimes pas trop, je pense que ça va.
Le livre, la subscription pour le livre, c'est 45 euros. Alors que le livre vaudra 50 euros à sa sortie, donc c'est une bonne affaire. Je pense. Hein.
On est après, sûr qu'il va sortir.
Il y a des paliers pour en avoir plusieurs.
Puisque les paliers sont atteints, ou en tout cas.
On est sûr qu'il sortira. Oui, oui. Vous n'êtes pas à l'abri d'aller en allant chez votre libraire favori, de tomber sur Johnny à peu près. Et croyez-moi, vous n'allez pas le manquer. Même s'il est caché derrière d'autres livres, moi je vais en librairie, si je ne le vois pas, je le prends, je le mets devant. Il faut que tout le monde voit ça. Je crois que j'ai déjà trouvé l'image pour l'article du podcast. Hein. C'est bon.
Alors, c'est du coup, Johnny, si on cite Johnny, on va le passer en musique.
Bah oui,
on. Et puisqu'on passe depuis tout à l'heure des musiques de Noël, je te laisse présenter cette magnifique chanson.
Ah bon?
Qui s'appelle, il n'y aura pas grand chose à dire, hein. Noël, Noël interdit,
s'il te plaît. Je crois que c'est une version live de 1974.
C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire. Mon cœur d'enfant était déjà trop grand, et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains, oubliés au hasard des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, oh, mon Noël interdit, je voudrais l'oublier avec toi. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier de ma vie, où le rêve ne m'est plus interdit.
Noël interdit, puisqu'on parlait de ce projet Ulule.
Johnny, à peu près.
Voilà. Un projet à suivre.
J'ai vraiment hâte. Hein.
Voilà, que vous soyez fan ou non.
Alors, pour info, effectivement, c'est une version live. Donc, elle a été chantée. Donc, Johnny chantait devant les détenus de la prison vaudoise de Beauschutz le 28 juin 1974. Voilà, chantait comme... Noël interdit devant des étolards. Ouais.
Comme si leur peine ne suffisait pas.
Oh là là.
Allez, on enchaîne. On va parler donc d'un. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça d'un événement plus, d'un projet participatif ici qu'on a pu voir sur Game on Tabletop.
Top. Game on Tabletop. C'est un des sites qui permet. Alors, on connaît Kickstarter, on connaît Ulule, il y en a pas mal d'autres. KissKissBankBank. Et Game on Tabletop, comme son nom l'indique, c'est pour les projets de financement participatif de jeux de rôle, tout ce qui est autour du jeu. Alors, le projet n'est pas encore lancé, hein, il se lancera dans 36 jours, hein, quelque chose comme ça. Donc, février, je pense. Mais c'est intéressant de le noter tout de suite parce que ça s'appelle Les Années Casus. Et quand on dit Casus Belli, le magazine de jeux de rôle le plus connu en France. Donc, c'est un film documentaire qui racontera l'histoire du jeu de rôle en France. Donc, projet à suivre, on en reparlera forcément bien dès qu'il sera lancé, dès qu'on aura un peu plus de détails. Mais bon, à noter à suivre.
Donc, ça sera un peu les hauts et les bas. Du JDR en même temps.
Oui, c'est vrai que le JDR a fait des courbes assez sinueuses. Et là, en ce moment, il revient vraiment en force. Donc, c'est effectivement le bon moment pour faire un petit point sur l'histoire du jeu de rôle en France.
Alors, tu as échappé à cette question, et je vais te la poser directement. Mais qu'est-ce que tu as fait de Dominique ce week-end ?
Bon, c'était calme. Hein. Bon, on ne va pas parler de ma raclette de Noël en famille, ça, c'est normal. Non, aujourd'hui, dimanche 26, je suis passé au musée des Beaux-Arts, au Palais des Beaux-Arts de Lille. Comme vous le savez sans doute, si vous avez été la Mel, mais c'est valable aussi partout en France, en général, le premier dimanche de chaque mois, les musées sont gratuits. L'entrée des musées est gratuite. À Lille, Tourcoing, etc. Toute la Mel, mais je pense que c'est pareil dans toute la région et dans toute la France pratiquement. Il faut se renseigner autour de vous pour voir si vous avez des musées. En général, le premier dimanche de chaque mois, c'est ouvert. C'est gratuit. Et aujourd'hui, on n'est pas le premier, mais le musée des Beaux-Arts, en ce moment, accueille une exposition, l'expérience Goya. Le peintre, hein, tu me vois venir. Et on avait accès à l'exposition complète. Il y avait, j'étais vers 15h, il y avait pour ceux qui connaissent le Palais des Beaux-Arts, devant il y a la place avec la fontaine, il y avait du monde qui faisait la queue dehors jusqu'au-delà de la fontaine. Et à l'intérieur, c'était pareil, mais c'est normal, c'est une exposition gratuite. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire en ce moment. Et le temps à Lille et le temps gris se prêtaient à aller soit au ciné, soit au musée. Et ben, il y a pas mal de monde qui a choisi le musée. Même si, je l'avoue, les œuvres de Goya sont pas forcément adaptées au très jeune public, il y a pas mal de gens qui étaient venus avec des enfants. On va dire qu'ils passaient les trois quarts du temps à masquer les yeux des enfants. C'est un petit peu ballot, alors qu'on l'avait prévenu, hein, les gens. Et donc, puisque je suis allé voir l'exposition Goya, tu me vois arriver.
Effectivement, et c'est un peu notre cadeau un peu en retard pour Pierre-Yves de notre émission Heureusement en France, puisque Chantal a quand même sorti un album.
Elle vient juste de sortir un album.
Et personne n'en a parlé.
Si, il y a beaucoup de monde, mais bon.
Mais pas chez nous.
Il fallait qu'on en parle.
Voilà, il est descendu sur le casier de la case du dimanche, ce beau casier en bois dans les studios de Radio Campus. Nous allons nous dévouer pour découvrir plusieurs titres. Hein, je pense que c'est important ici de prendre son temps, voilà, de ne pas prendre ses jambes à son cou, de prendre son temps.
Elle avait un petit peu chanté des chansons de Noël. Bon, on la connaît pour tous ses spectacles et ses chansons pour enfants, mais elle n'avait pas forcément beaucoup chanté de chansons de Noël. Elle a un album complet d'un coup.
Quatre reprises standards, telles que Mon beau sapin, Douce nuit, ouais, Vive le vent, Petit papa Noël. Je te laisse en choisir une parmi celles-là, Dominique.
Ah, la Tour Eiffel est quand même un arbre de Noël.
Ah ouais, mais je te parle des quatre premières reprises. Mais écoutons donc. Il y a également, là tu me parles des trois inédits. Donc la Tour Eiffel est comme un arbre de Noël.
La plupart des chansons écrites, bien sûr, par Jean-Jacques Debout, son mari.
Alors Elton John, avec sa nouvelle chanson de Noël, n'a qu'à bien se tenir.
La Tour Eiffel est comme un arbre.
De toute façon, ils ont le même costumier et le même coiffeur, non? Chantal Goya et Elton John, non?
C'est ça. Le même styliste.
C'est ça, le même styliste.
Il
est fasciné.
Par son originalité, elle aime aussi se déguiser pour fêter l'arrivée du beau traîneau doré. La Tour Eiffel est comme un arbre de Noël de Montmartre à Grenelle.
Il y a aussi une chanson qui s'appelle Vive le vent, bon, on la connaît, et j'ai découvert qu'elle avait été, en tout cas, peut-être cette version, écrite par Francis Blanche. Célèbre humoriste.
Vive le vent.
Oui.
Vive le vent, vive le vent, vive le vent.
Vous ne savez pas que cet énergumène, c'était. C'était aussi.
C'est sûr que c'est pas une version parodique qu'il a écrit.
C'est pour ça que je me dis attention aux paroles, connaissant Francis Blanche. Il a aussi fait des choses sérieuses.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'auto-tune chez Chantal?
Non, jamais, monsieur. Non, c'est impossible. Quand tu approches un appareil autotune de Chantal, il tombe en panne. Il explose.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche.
Incroyable. Sa voix est toujours la même. Elle a travaillé avec un des arrangeurs avec qui elle avait travaillé il y a
j'ai mon autotunomètre qui s'alerte.
Et je disais, elle avait travaillé avec un de ses anciens arrangeurs. Il a commencé à écouter. Il dit, il va falloir travailler un peu la voix. Il a dit, bah non. En fait, et sa voix n'a pas changé à elle depuis, elle, alors qu'elle ne fait jamais d'exercice.
Je pense que maintenant.
C'est un phénomène. Il va falloir, quand elle sera morte, il va falloir la disséquer pour étudier ses cordes vocales.
Alors, est-ce que c'est inclus dans les tables de mixage des studios actuels, peut-être?
Ou alors c'est dans nos oreilles, on est tellement habitués aux enfants. En tout cas, c'est pas chez Radio Campus qu'on rajoute de l'autotune.
Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Et dans chaque maison.
Allez, un autre petit inédit quand même, on va pas se...
Je sens que tu t'éclates. Oh, ben, Pierre-Yves, d'autres. Ah non, c'est bon, il nous a remercié. C'est la dédicace. Peut-être qu'on la reçoit. On la reçoit pour notre émission de Noël spécialité. On essaie d'avoir Chantal Goya.
Ah, allez. J'ai toi, mon doudou. Oh. Mais je sais pas si c'est un inédit. Il nous reste 30 minutes de quoi passer tout l'album. Hein.
On n'oublie pas qu'on a encore plein de cadeaux qu'on n'a pas à conseiller à nos auditeurs.
Son petit doudou qui serrait fort près de son cou et qu'il aimait par-dessus tout.
Bon, des doudous peut-être.
Les yeux pleins de larmes, le cœur battant, il répétait bien tristement à sa maman qu'il avait perdu son petit doudou dans le grand escalier.
Je pense qu'elle a même utilisé les mêmes synthétiseurs qu'il y a 40 ans.
Peut-être qu'on... La petite fille aux allumettes. Oh, ben, moi, je tiens jusqu'à 19h. Hein.
une histoire.
C'est marrant parce qu'elle a gardé un peu ces instruments qui me font penser au manga d'époque.
Ce qu'on entendait dans les génériques, genre style Jeanne et Serge, tu vois.
C'est ça, oui. Orange Road, qui s'appelait en français. Juliette, je t'aime.
Max et compagnie. Oui, tous les génériques étaient faits là-bas.
J'ai l'impression que c'est les mêmes instruments, et même.
Ah, c'est ça, ça touche. C'est calculé pour toucher nos fibres. Là. Après, ça marche.
C'est gay comme musique.
Bah oui, hein. C'est comme l'exposition Goya au Palais des Beaux-Arts. C'est des conseils aux enfants, comme l'album de Chantal Goya.
Alors, des idées cadeaux, ou peut-être des cadeaux qui ont mal tourné, ou des cadeaux un peu trompeurs. Alors, se sont vendus sur Internet. Je vais peut-être laisser Chantal en fond pour,
oui, ça peut être bien,
pour qu'on garde quelques auditeurs. Hein. Alors, dans les personnes un peu anti-conspiration,
etc. Oui, il y a les fameux. Oui, parce qu'on sait bien qu'il y a des puces 5G dans le vaccin. Mais oui, depuis que la 5G est développée, il y a beaucoup de gens qui sont contre et qui veulent se protéger des mauvaises ondes de la 5G. Enfin, ça a été déjà pareil avec la 4 et la 3. Et donc, il existe des dispositifs qui apparemment protégeraient des ondes, dont des colliers.
C'est ça, la société Magnetix qui nous propose donc un pendentif, des bracelets, même des masques de sommeil.
Ouais, c'est magnifique.
Avec comme propriété, hein, notamment soit de l'Energy Armor, donc une armure énergétique, ou des ions négatifs.
Ça fait comme les casques, ça produit un infrason qui annule le son, et là c'est pareil, ça annule les ondes.
Grâce à ces rayonnements ionisants, vous allez bloquer les ondes 5G sur votre corps, ce qui est génial. Sauf que l'ANVS donc a analysé ces 10 produits et s'est aperçu que elle émettait quand même certains rayonnements radioactifs.
C'est ballot. L'ANVS, alors comme son nom l'indique, c'est l'autorité néerlandaise pour la sécurité nucléaire et la protection des radiations. Ça fait pas ANVS, mais j'imagine que c'est en néerlandais. Oui, c'est un petit peu embêtant. Alors là, je pense que ces gens s'y connaissent, contrairement aux gens qui vendent ces produits. Alors tu dois choisir entre la 5G et la radiation, c'est ça? C'est mal barré. Ouais. Bon, si vous avez reçu ça dans vos cadeaux de Noël, voilà.
Donc là, c'est rayonnement. On peut
même pas le jeter à la poubelle.
Ces rayonnements peuvent endommager vos tissus et un peu votre ADN. Donc,
j'aime bien le un peu votre ADN. Ok, pas peur.
Donc, alors, on dramatise un peu peut-être la chose, mais notamment donc certaines rougeurs peuvent apparaître au niveau de d'où vous avez placé donc.
Si t'as mis le masque de sommeil
énergétique.
Si tu dors pendant des heures avec un masque de sommeil radioactif, tu vas faire des drôles de cauchemars. Non, tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir. Oh, j'ai fait un cauchemar. Ah non, c'était pas un cauchemar, c'est ton visage qui a été modifié par les radiations. Non, c'est terrible.
Il faut savoir que ce genre d'article, plus de 25 000 articles ont été publiés au cours de ces 30 dernières années pour parler justement donc des effets médicaux. Des rayonnements ionisants.
Les ondes, c'est ça, oui. Ou les gens qui habitent sous des pylônes à haute tension, etc. Bon. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Et en général, les produits qu'on leur vend, c'est souvent des arnaques, quoi. Les coques dans lesquelles on met les téléphones et qui empêchent les ondes de passer. Enfin bon, faut se renseigner avant d'acheter n'importe quoi, les gens.
Alors forcément, ici, si on parle d'études sur le 5G, le 4G ou autre, on aura toujours des sources un peu différentes. Mais bon, sur certaines sources, on a dit que la fréquence sur laquelle a été mise le 5G serait pas forcément très différente du 4G au 3G, donc on serait peut-être sur les mêmes taux de nocivité.
Très différentes, c'est assez compliqué, ouais, j'avoue.
Oui,
allez pas déménager non plus sous un pylône de 5G non plus, c'est pas forcément conseillé. Mais...
Alors justement, puisque vous avez donc ces pylônes, comme tu dis, de 4G, prenons par exemple, qui vont émettre sur un rayon, donc alors je veux pas dire de 90 degrés, mais sur un certain rayon, et si vous êtes donc devant, face à ce pylône, ça peut être très endommageable pour votre santé. Ceci dit, si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas forcément dans le rayonnement de ce matériel. Oui, je m'embarque dans le technique. Okay. Autre petit inconvénient d'un produit qui a été livré à Noël,
on va parler de quantité en plus. Hein. On parle de la Switch de Nintendo. Il y a eu un petit souci apparemment avec le eShop, parce qu'on peut télécharger, quand on a une Switch, on peut soit avoir des jeux en physique, soit les télécharger.
Alors, faut savoir que le jeu physique est en baisse actuellement. Le format CD, bon, commence à, j'ai envie de dire heureusement, disparaître. Mais ça embarque d'autres soucis, puisque si tout le monde, le jour de Noël, reçoit sa Switch et le branche le lendemain, on se retrouve un peu comme lors d'un lancement d'un jeu vidéo où tout le monde va attaquer les serveurs en même temps. Et ce qui s'est passé donc pour la Switch, puisque tout le monde a commencé à aller télécharger des jeux sur l'eShop, qui est tombé en panne.
C'est ballot. Tu peux jouer. J'imagine qu'il y a au moins un ou deux jeux intégrés, mais bon. C'est ballot.
Donc ici, on pouvait même plus...
C'est pas non plus comme s'ils pouvaient anticiper ce genre de problème chez Nintendo. Pourquoi est-ce que le lendemain de Noël, il y a plein de gens qui iraient télécharger, se connecter à nos serveurs pour télécharger? Je ne vois vraiment pas pourquoi ça arriverait. Franchement, le manque d'anticipation de mes gens me laisse de me surprendre.
C'est toujours surprenant de voir que c'est souvent des grosses compagnies qui ont la possibilité de louer des serveurs. Alors maintenant, on peut louer des serveurs avec une capacité de charge qui peut augmenter.
Oui, qui s'adapte. Oui.
Donc généralement, vous payez un abonnement, mais vous savez que quand vous utilisez moins, vous aurez moins de serveurs disponibles. Et lorsque vous avez des rushs, la société qui vous loue ces serveurs va vous en faire une allocation un peu plus importante afin que vous puissiez avoir une capacité plus importante selon vos besoins. Alors on voit que certaines grosses compagnies comme ça, peut-être que la charge est trop importante ou peut-être qu'ils gardent pour eux des serveurs qu'ils gèrent eux-mêmes et forcément sur des gros coups de rush n'arrivent pas à s'adapter. Donc c'est quand même un coup dur.
Ils ressentent du succès.
Pour Nintendo.
Bon, j'imagine que les gens n'ont pas renvoyé. Peut-être qu'ils vont. Ils n'ont pas renvoyé leur console en disant votre truc marche pas, on n'en veut pas. Ils vont peut-être exiger une petite réparation sous forme de quelques jeux gratuits ou de bons d'achat, de réduction.
Oui, s'ils veulent bien les accorder. Alors, un autre site, Dominique, qui a dû faire fureur pour ce Noël.
T'avances peut-être un peu là.
On en a plusieurs. Et c'est vrai que j'ai une passion, je vais vous l'annoncer comme ça en direct, c'est d'aller fouiller justement ces sites de dédicaces en ligne.
C'est de plus en plus de succès, c'est vrai. Ça a commencé aux États-Unis, mais en France, il y en a un ou deux maintenant. Celui-là s'appelle Vidoleo.com. Et si vous allez sur ce site, vous allez retrouver plein de magnifiques visages familiers de vos vedettes favorites. Si, vous allez voir peut-être le visage de Johnny, mais ça ne sera pas Johnny, ça sera son sosie. Et en fait, contre un petit peu d'argent, vous avez la possibilité de demander à vos vedettes favorites de vous enregistrer un message personnalisé. Ça peut être pour l'anniversaire de quelqu'un, pour Noël, pour, je sais pas, pour faire de la publicité pour votre boîte, ou pour votre émission de radio, je ne sais pas, demander de leur de faire un générique. Et pour des sommes qui vont de 20, pour les moins prestigieux, jusqu'à 500 euros pour des sportifs très célèbres et qui sont encore en activité, et bien voilà, vous aurez un message de quelques secondes, quelques minutes, qui sera délivré en plus assez rapidement, quoi. Faut pas attendre un mois pour le recevoir. Ça peut être fait dans la journée. Et des fois, il y en a qui se mettent, si c'est des comédiens ou des, ils mettent un petit peu d'humour dedans, ils se donnent vraiment à fond, quoi.
Puis c'est assez simple, hein. Ils prennent leur portable, ils reçoivent une notification. Exactement. Voilà, le petit mot, c'est Joël qui vous demande de laisser un message pour sa maman qui est fan. Et voilà, en 30 secondes, la personnalité célèbre va récolter un petit pactole. Or forcément, une certaine somme est reversée sur les sites, hein. Alors, tu nous parles donc de
Vidoleo.com.
Alors, sachant que c'est pas forcément son concurrent, mais sa version américaine, c'est Cameo.com.
Exactement.
Où est featured Chuck Norris, quand même.
Ah oui, Chuck Norris. Mais nous, on a Francky Vincent. C'est pas mal non plus.
Oui.
Et donc, parmi. Alors, il y a des sportifs, il y a des vedettes, il y a des animateurs, il y a des chanteurs, il y a des sportifs, des chanteurs et des sportifs chanteurs. C'est très important. On a même Tony Vérel. J'ai retrouvé Tony Vérel, l'ex-joueur du Racing Club de Lens, qui est là aussi. On ne sait pas ce qu'il fait là. Et tu as aussi des autres trucs. Par exemple, tu as le Père Noël en ce moment. Bon, là, c'est un petit peu rare. Mais tu as le Père Noël. J'ai regardé la semaine dernière, il y avait même deux Pères Noël qui faisaient concurrence. Et tu as un type qui fait la voix de Jeff Tuch. Tu as le sosie de Johnny Hallyday. C'est pour ça que j'en parlais. Enfin, t'as de tout et de rien. C'est très, très étonnant. C'est assez amusant. Ça peut coûter, comme je vous dis, jusqu'à 500 euros pour vraiment quelqu'un. Il y a des gens que je connais pas du tout qui viennent de télé-réalité. Il y a des YouTubers. On sait pas ce qu'ils font là. Il y a des gens qui font des voix pour des feuilletons. Pas sur TF1, Je ne sais pas, enfin, c'est rigolo. Bon, ça, eux, ça leur coûte rien, ça leur fait un petit apport, et éventuellement de reconnaissance, mais bon, pourquoi pas. C'est rigolo.
Bah, c'est surtout que ces stars, alors certaines notamment, mais oui, bah, parlons de célébrités et de stars, certaines faisaient des salons, je parle par exemple des acteurs de séries telles que Game of Thrones ou autres, oui. Se rendaient dans des salons physiques.
Des grosses conventions de comics, etc. Et tu peux aller les voir effectivement.
Et payer 50 euros la photo, par exemple.
Ouais. Même pour quelqu'un qui n'est pas forcément très connu, parce que c'est des gens que tu vas peut-être rencontrer une fois, pour avoir ta photo, plus 50 euros pour la dédicace, ça peut faire un petit budget quand on est vraiment fan. Je trouve ça un petit peu abusé, mais c'est pareil, il faut bien, pour les faire venir, ça coûte de l'argent. Là, ils sont chez eux, ça coûte rien, donc c'est sympa.
Et puis, il faut bien payer leurs impôts, si ça prend 30 secondes et un petit message. Pourquoi pas, hein. Donc, j'aime bien aller faire ces tours. Et j'ai la même passion pour aussi les sites où les gens vous donnent des cours.
Ah.
Voilà, vous pouvez prendre des cours avec Gordon Ramsay, mais même avec les stars de Top Chef, par exemple, qui se mettent aussi sur des sites. On en parlera la prochaine fois, parce que là aussi, il y a des petites perles à découvrir. Encore un peu de musique, Dominique. Qu'est-ce que tu nous proposes dans l'esprit de Noël ?
On va rester dans les hommages, parce que la semaine dernière, on a rendu quelques hommages à des personnalités disparues du monde de musique. Il y en a qu'on avait oublié, c'est... Steve Bronski, l'un des fondateurs du groupe Bronski Beat, dont le membre le plus connu était Jimmy Somerville, bien sûr. Il est mort le 7 décembre 2021, à l'âge, je suis en train de calculer, de 61 ans. Donc c'est l'un des fondateurs du groupe Bronski Beat. Et j'ai retrouvé un morceau, alors j'ai essayé de chercher une chanson de Noël, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un extrait du Top of the Pop spécial Christmas. Une version qui est assez sympa, parce qu'on entend au début une clarinette, c'est Balbidis, et la clarinette est jouée notamment par Steve. Bon,
on va s'écouter ça. Écoute, je te mets le... It Ain't Necessary, So the Bronski Beat.
Magnifique version. Et c'est pas de la peau près, ça.
Alors, il faut dire qu'on regarde encore des images de ah oui, Johnny à peu près.
Chaque fois que je passe sur l'image de Johnny à peu près, j'ai une larme aux yeux. C'est un bon type d'émission, ça. On ferait une émission. Johnny à peu près, on pourrait faire n'importe qui à peu près. On a fait un peu Chantal Goya à peu près tout à l'heure, mais enfin bon.
On était dans les idées un peu cadeaux. Ici, un bouquin. Alors, si vous ne l'avez pas eu à Noël, il est encore temps d'aller vous balader dans les boutiques pour vous faire un petit plaisir ici, légèrement culinaire. Alors, non pas, ce n'est pas un bouquin que vous allez pouvoir manger, mais qui va vous donner de très bonnes recettes pour faire de la soupe.
Eh oui, parce qu'on sait bien, sur Radio Campus, on fait partie de l'organisation de la fête de la soupe qui a lieu normalement tous les 1er mai à Lille. Alors, l'année dernière, ça a été annulé. Cette année, ça a été semi-annulé, on va dire réparti un petit peu partout dans l'année, un petit peu partout sur l'île. Donc, c'est organisé par la Louche d'Or. Et à force des années, ça fait plein de recettes de soupe. Et donc, ils en ont fait un bouquin qui s'appelle À la soupe, 20 ans d'un festival. Donc, j'imagine qu'on revient aussi sur l'histoire du festival de À la soupe et de la soupe d'or. De la Louche d'Or, pardon.
Donc vous allez pouvoir donc avoir qui retrace un peu le parcours de certains gagnants, qui vous donne bien sûr des petites recettes. Alors si vous voulez préparer chez vous une soupe à l'ortie, une bonne sherpa aux champignons.
Je commence à faire faim en plus là. Pour 18 euros. Alors, on peut trouver le livre sur l'île, donc en trois endroits, au Vertige de Sébasto. Rue des Postes, c'est un magasin bio, si je dis pas de bêtises. Au Vertige Biocop de Oisem, on reste vraiment très localisé Oisem, hein, c'est ça. Ou au Café Les Sarrasins, le café citoyen de Oisem, hein, qui est ouvert il y a 2-3 ans maintenant. Au Rue des Sarrasins à Oisem, hein, pour les gens de Oisem connaissent bien. Donc c'est là qu'on peut trouver, dans ces trois endroits qu'on peut trouver, le livre à la soupe. Très bonne idée, je crois que je vais me l'offrir.
Alors, plus lié cette fois-ci à l'univers geek et notamment à l'informatique. Alors, c'est un modèle en bois du premier ordinateur Apple.
On est dans le cadeau un petit peu plus cher, là, quand même.
C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de NFT, ici, puisqu'il n'y en a qu'un ?
Je pense qu'il y a un modèle unique, ouais, c'est ça.
Qui était vendu, donc, à 400 000 dollars.
Aux enchères. Hein. C'était pas dans un magasin Apple qui vendait ça. Ils seraient capables, remarque. Je suis sûr qu'ils en ont fait des petites reproductions pour les vendre, pour les 400 dollars. Est-ce qu'elle est compatible avec le modèle d'Apple en bois, la lingette ? Je suis sûr que pour ce prix-là, quoi qu'il serait capable de vendre la lingette encore plus cher. Je pense que la personne qui a dépensé 400 000 euros aux enchères pour avoir le modèle en bois, est-ce qu'il marche au fait ? Je n'ai même pas fait attention. Je crois qu'il marche en plus. C'est une espèce de prototype, il n'y a que la coque qui est en bois, mais l'écran... Et tout, le clavier marche. Bon, vous n'allez pas jouer au dernier FIFA ou je ne sais quoi avec ce jeu, mais bon courage.
Ah, déjà, si tu joues à Pong, mon avis, ouais. Tu peux être content.
Oh, s'il y a des jeux là-dessus, pas de
problème. Alors, j'en profite, puisqu'il y a l'Amiga 500 Mini, on en avait parlé lors d'une émission, qui a enfin sa date de sortie. Donc, le 25 mars 2022, vous pourrez acquérir cette... Alors, je sais que Dom, à l'époque, tu me reprenais à chaque fois que je disais que l'Amiga était une console. Alors, pour le coup, ici, alors, bien sûr, c'était un...
C'est vrai qu'il y a des gens qui lui disaient, quand tu utilises un ordinateur que pour jouer, on peut considérer que c'est une console. C'est du jouer à la manette, en plus.
Donc, l'Amiga était bien un ordinateur.
Un micro-ordinateur.
Et là, ce qui va sortir, c'est bien une console, attention, puisque on aura ce design de l'Amiga 500. Mais le clavier ne fera qu'en fait une grosse touche de décoration sur laquelle vous allez brancher donc une manette. Et à l'intérieur, vous aurez une liste de 25 jeux.
Avec un émulateur qui fera tout tourner, d'accord. Donc on ne pourra faire que jouer avec. Enfin, il y aura sûrement des petits malins qui vont bidouiller pour avoir accès au système et faire autre chose.
Donc si vous voulez redécouvrir les classiques tels que Alien Breed, Another World, Kick Off, Battle Chess ou The Chaos... Engine, ça sera le moment de payer cette modique somme de 130 euros parce que vous avez la flemme d'installer l'émulateur sur votre machine et d'y brancher une manette. Et même la manette sera rétro et la souris également. Vous aurez cette belle souris avec deux boutons.
De magnifiques boutons qui cliquaient bien. À noter, on parlait de l'Apple 1 et j'ai vu qu'ils avaient fait que deux exemplaires de l'Apple 1, 200 exemplaires, pardon, tous assemblés à la main dans le garage de Steve Jobs, hein, c'est la légende. Et tu sais à quel prix se vendait à l'époque ? 666,66 $. À mon avis, si tu mets la main sur un des 200 exemplaires d'Apple 1, tu vas le vendre un peu plus que 666.
Tu rajoutes 3 bons zéros.
Surtout qu'il marche.
Facilement. Alors, on parle de. d'ancienneté qui se vendent des millions. Ici, c'est le premier SMS l'histoire.
On peut dire que c'est une ancienneté, sa façon.
Et qui va être vendu en forme
il
de...
Vendu, il était vendu.
En forme de NFT, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que c'est un SMS, donc c'est un fichier, tu peux le copier, tu peux le reproduire, c'est juste du texte. Tu peux le transférer, donc il peut y avoir plusieurs copies. Mais quelqu'un l'a récupéré, façon de parler... Et l'on transforme en NFT. Donc NFT, c'est non-fundable tickets. C'est-à-dire que c'est comme si on gravait dessus, comme si on mettait un sceau qui faisait que cette version, cette copie du SMS devient unique. C'est l'authentique, on va dire. C'est comme un sceau d'authenticité. Ouais, je me suis pas trompé.
Alors, faut savoir que certains jeux maintenant se lancent dans le NFT à mettre des items qui seront valables de façon unique. Sauf que certains joueurs n'adhèrent pas du tout. Et ça, donc, premièrement, ça ne se vend pas. Et deuxièmement, maintenant, les plateformes commencent à bannir les jeux qui proposent des NFT.
Ouais, parce que effectivement, dans certains jeux, au hasard Fortnite, le plus connu, on peut acheter ce qu'on appelle des skins, donc des tenues, des objets. Et on avait vu que, je crois que c'est la maison Gucci qui avait fait des chaussures qui n'existaient pas en vrai, mais c'était des modèles Gucci qu'on pouvait acheter pour, je sais, genre 10 euros, enfin peut-être plus 10 euros, je sais pas combien ça coûtait, enfin un peu Gucci quoi. Et il les portait en jeu. Donc tu achètes des chaussures pour un certain prix, pour le prix de tes chaussures, alors que tu peux pas les porter en vrai. Ok, c'est rigolo. Et donc là, on va encore plus loin parce que tu auras ton modèle exclusif. Ouais, pourquoi pas si par exemple tu es dans un jeu de rôle et que tu as ta maison, dans lequel tu peux personnaliser ta maison en mettant des meubles, peut-être que tu pourras mettre un tableau qui sera unique, il n'y a que toi en jeu qui pourra l'avoir. Même si tu vas visiter les maisons créées par les autres joueurs, ils vont peut-être avoir les mêmes meubles, les mêmes armes, les mêmes costumes, mais peut-être qu'un tableau ou un autre objet sera unique.
Un peu comme un paquet de cartes qui forge, par exemple.
Un grand plaisir.
Alors, on va se quitter avec un petit hommage, puisque la chanteuse des Marvelettes nous a quittés début décembre. C'était Wanda Young, The Marvelettes.
Ouais, à l'âge de 78 ans, les Marvelettes, c'était un des nombreux groupes de l'époque, avec les Supremes, etc. Les girls bands, on pourrait presque les appeler chanteuses. Qui étaient souvent à l'origine reléguées aux choristes derrière des chanteurs connus, puis qui ont eu leurs propres albums.
Et donc elle chante notamment en avant sur cette chanson qui s'appelle The Hunter Gets Captured by the Game. On se retrouve très prochainement, donc l'année prochaine. 2 janvier pour un nouvel épisode de Heureusement en France, et d'ici là portez-vous bien, ciao.
Radio Campus Lille, il est 19h.